Le journal, présenté par Mathieu Laurent.
Bonsoir à tous. Au sommaire de cette édition, une marche à Beaumont-sur-Oise. 3 ans après la mort d'Adama Traoré, marche contre toutes les violences policières. Reportage de Benjamin Mathieu. L'opposition russe en force dans les rues de Moscou. 20 000 personnes contre l'exclusion de la quasi-totalité des candidats indépendants aux élections du Parlement de la capitale. Héroïque, le retour au pays des Fennec, les footballeurs de l'équipe nationale algérienne, champion d'Afrique et catalyseur d'exception du mouvement citoyen selon Hakim Haddad. Le fondateur et ex-secrétaire général du rassemblement Action Jeunesse a donné un entretien à Thomas Larabi. Et puis en fin de journal, comme chaque soir à 7h, la chronique d'Arnaud Laporte qui complimente la mise en scène de Tommy Milliot à Avignon. Une riposte à l'autoritarisme, c'est ainsi que les corps politiques, sociaux et associatifs impliqués dans la marche de Beaumont-sur-Oise tiennent à nommer leur engagement qui a pris la forme cet après-midi d'une marche. Une marche 3 ans après la mort d'Adama Traoré. L'affaire toujours en instruction est plus que jamais le symbole des violences policières dénoncées ce samedi par des gilets jaunes, des partis de gauche et bien sûr le comité Adama. C'est un reportage à Beaumont-sur-Oise de Benjamin Mathieu.
Des sifflets devant la gendarmerie de Persan.
Adama a rendu son dernier souffle dans cette gendarmerie.
La sœur d'Adama, Assia, debout à l'arrière d'un camion en tête de cortège, prend le micro.
Il est mort sans nous. On nous a caché la mort de mon frère pendant plusieurs heures.
Adama est mort ici le 19 juillet 2016 après une interpellation des gendarmes. Depuis, expertise et contre-expertise se contredisent sur les causes de sa mort. Nora de Clichy demande une égalité de traitement entre jeunes de banlieue et les autres.
Une justice, une vraie justice, une légalité, on stoppe le deux poids deux mesures.
Des centaines de personnes, dont beaucoup portent un t-shirt noir sur lequel on peut lire « Sans justice, vous n'aurez jamais la paix », manifestent aussi pour dénoncer les violences policières dans leur ensemble.
Bien sûr que la cause me parle, ça date pas d'aujourd'hui.
Youssef est venu d'Aulnay pour participer à cette marche. Il demande des mesures très concrètes.
Au niveau des procédures, les revois, les techniques de pliage elles devraient être interdites. Le flashball, ça devrait être utilisé, mais très rarement, voire quasiment pas du tout, enfin pas du tout pour moi. Envoyer des policiers en prison, ça serait un bon exemple à donner, parce que là on est vraiment dans l'injustice. À un moment donné, il va falloir se poser autour d'une table et en discuter sérieusement avec ou le gouvernement ou avec en tout cas les gens qui en ont marre de subir les violences policières, qu'elles soient sociales, raciales ou autres. Hein.
Beaucoup de gilets jaunes également ont fait le déplacement comme Carole, drapeau français dans la main.
En fin de compte, on est autant touché par la violence policière que les gens des quartiers.
Ça, c'est nouveau pour vous ?
On était moins concernés, oui. Ça prouve bien aujourd'hui, vu le nombre de gilets jaunes qu'il y a, que ça touche vraiment tout le monde, quoi.
Gilets jaunes sans papiers, syndicalistes et aussi pour la première fois Amnesty International manifestent ensemble avec le collectif Adama. Ils vont organiser une journée d'action en septembre prochain pour de nouveau dénoncer les violences policières en France.
Merci à vous tous.
Reportage signé Benjamin Mathieu à Beaumont-sur-Oise. Pour Steve Mayakaniso, cette fois, un rassemblement a eu lieu en milieu d'après-midi à Nantes, quai Wilson, à l'endroit où il fut aperçu la dernière fois, peu avant une charge policière, sur les bords de Loire, lors de la fête de la musique. Des centaines de personnes présentes avec en main affichettes, pancartes, banderoles parcourues de ce slogan « Où est Steve ?». Bien plus performant que de prétendument indépendantes enquêtes d'opinion, un scrutin local, celui qui renouvelle les députés du Parlement de Moscou, l'un des derniers rendez-vous électoraux dont n'était pas privée l'opposition. Dimanche dernier, la commission électorale passait à l'acte et excluait des urnes la quasi-totalité des candidats indépendants. Mécontentement, grand format, plus de 20 000 personnes pour scander « Honte, la Russie sera libre ». Jean-Didier Revoin nous appelle de Moscou.
L'objectif des organisateurs de cette manifestation autorisée par les autorités était de voir dans quelle mesure l'opposition était capable de mobiliser les moscovites. Force est de constater ce soir qu'elle y est parvenue. Ils étaient plus de 20 000 cet après-midi dans le centre de Moscou à réclamer des élections locales libres et équitables après l'invalidation par la commission électorale d'une soixantaine de candidatures émanant de candidats indépendants ou de l'opposition. Elle leur reproche des irrégularités dans les signatures que la loi les contraint de recueillir afin de se présenter à l'élection du Parlement. gouvernement de Moscou, alors que les candidats malheureux dénoncent, eux, une manœuvre politique pour les empêcher de participer au scrutin. C'est donc avec des slogans tels que « La Russie sera libre »,« Honte » ou encore « C'est notre ville » que les manifestants ont montré au pouvoir qu'ils souhaitaient pouvoir exercer leur droit de vote pour le candidat de leur choix. Certains manifestants estiment que la forte mobilisation de cet après-midi est de nature à faire peur au pouvoir et pourquoi pas d'entraîner une révision de la décision de la commission électorale. L'opposant Alexei Navalny lui a donné jusqu'à samedi prochain pour autoriser les candidats recalés à se présenter à l'élection sous peine de nouvelles manifestations au pied de la mairie de Moscou. Reste à savoir comment les autorités se positionneront à l'heure où Russie Unie, le parti qui soutient Vladimir Poutine, est en difficulté. Un récent sondage ne lui prête que 30% d'intention de vote et une déroute électorale en septembre prochain pourrait avoir d'importantes répercussions sur le jeu qui caractérise la vie politique russe.
Sondage sans frontières avec en Ukraine inflation d'enquête dégainée par le jeune pouvoir incarné par Volodymyr Zelensky. Sondage qui promet la victoire à son parti aux élections législatives de demain. À l'est de l'Ukraine, escarmouches et affrontements, 3 morts, 2 soldats et 1 civil dans des zones tenues par des séparatistes pro-russes, là où un cessez-le-feu est censé entrer en vigueur demain, première heure. Aucune accalmie sur le front diplomatique qui occupe et préoccupe et l'Iran et la Grande-Bretagne et son tuteur américain. Le ministre britannique des Affaires étrangères et son homologue iranien conviennent qu'il s'agit de tout faire pour, je cite, « désamorcer la situation ». Situation électrique dans le Golfe, avec pour dernière étincelle la saisie par les passes d'Aran d'un pétrolier britannique dans le détroit d'Ormuz. Téhéran refuse d'obtempérer malgré ce qui s'apparente à des rappels à l'ordre de la part de la France, l'Allemagne et l'Union européenne qui appellent à libérer l'équipage du navire. D'une zone commerciale éminemment stratégique à une grande puissance économique sous pression américaine, la Chine. La Chine qui annonce l'ouverture de son secteur financier aux investisseurs étrangers, mesure qui entrera en vigueur dès l'an prochain, soit avec 1 an d'avance sur le calendrier initial. Pourquoi cette accélération ? Damien Abel a posé la question à Daniel Haber, professeur d'économie internationale.
Écoutez, la Chine est dans une phase de négociation très intense avec les Américains et la menace d'une hausse très élevée de droits de douane sur tous leurs produits industriels restant encore libres de droit. Donc il faut qu'ils trouvent des choses à proposer aux Américains et les Américains sont très demandeurs d'une libéralisation du secteur financier. Les banques, les investissements, les assurances, ce sont des secteurs énormes dans le monde, mais surtout dans le monde développé, et surtout aux États-Unis, mais aussi chez nous en France et en Europe. Donc pour les Chinois, c'est une proposition qui a du sens. Est-ce que ce sera suffisant aux yeux d'Américains ? Ça, c'est pas sûr. Alors le vrai problème, c'est est-ce qu'au bout d'un an, on aura une liberté totale de s'installer en Chine pour faire de la banque et de l'assurance ? Ça, c'est encore moins sûr. Les restrictions du passé, c'était plutôt nous obliger à avoir des partenaires, nous obliger à aller, par exemple, nous installer dans des villes qui n'étaient ni Pékin ni Shanghai parce que les Chinois voulaient décentraliser un petit peu l'activité économique. Aussi, pour les banques, une certaine forme d'interdiction de faire de la banque de détail, de s'adresser directement au peuple chinois, plutôt faire de la banque d'affaires entre entreprises. Donc tout ça n'est pas encore bien clair, mais bon, c'est un premier pas et ça va s'ajouter certainement à d'autres choses que les Chinois essaient de rassembler un petit peu désespérément pour éviter le pire vis-à-vis des Américains.
Daniel Haber, professeur d'économie internationale. 100 000 personnes dans les rues de Hong Kong pour exprimer leur soutien aux forces de police et réclamer l'arrêt des violences à la veille d'une nouvelle grande manifestation contre la politique de l'exécutif et son projet d'extradition en Chine. Les Algériens ont accueilli leur héros, les Fennec. Les joueurs de l'équipe nationale de football ont remporté hier la Coupe d'Afrique des Nations en plein mouvement citoyen. Un mouvement né dans les stades de football, le symbole est nécessairement fort. Et les manifestants en sont certains, les victoires appellent les victoires, qu'elles soient sportives ou politique. Thomas Larabi a sollicité le fondateur et ex-secrétaire général du RAJ, le Rassemblement Action Jeunesse, Hakim Haddad. Première question de cet entretien, cette victoire, frein ou catalyseur du mouvement ?
Preuve en est depuis hier, même si c'était le cas depuis au moins les quarts de finale. Ça a boosté. On le voit que ce soit dans les rues d'Algérie et pas seulement d'Alger, y compris sur les réseaux sociaux. Ça a boosté la révolution et le Hera concours, effectivement. Ce à quoi les Algériennes et Algériens, les citoyens, répondent aujourd'hui. Nous avons eu la deuxième étoile, référence à la deuxième Coupe d'Afrique des Nations. Et ben maintenant, nous voulons la deuxième République. Voilà, donc ça continue de plus belle et ça renforce force les citoyens et les citoyennes, surtout ces dernières semaines avec la répression qui est tombée sur le mouvement.
On a vu que le pouvoir a mis en place des trajets en avion jusqu'en Égypte pour les supporters. Est-ce qu'il y a eu une réelle tentative de récupération par le pouvoir de cette effervescence?
Oui, mais aujourd'hui, cette fois-ci, mal lui en a pris. Effectivement, tous les pouvoirs, je dirais, et en particulier les pouvoirs policiers et dictatoriaux, utilisent les sports de masse, en l'occurrence le football pour nous en Afrique et en Algérie, pour galvaniser les foules et les faire détourner de leurs objectifs premiers. Mal lui en a pris cette fois-ci. La présence du honteux monsieur Ben Salah, chef d'État par intérim, et encore, puisque son mandat se terminé le 9 juillet dernier, qui a reçu les sifflets de la part des supporters au stade du Caire, la tentative honteuse du représentant militaire et comme par hasard militaire justement à l'ambassade d'Algérie en Égypte, qui est descendu le premier sur le terrain pour essayer de saluer chaleureusement les joueurs, et la réponse a été très froide. Donc oui, le pouvoir va continuer et continue en tout cas à continuer jusqu'à hier de récupérer cette victoire, mais cette victoire appartient au peuple, appartient à la population, appartient au Hirak et à la révolution en cours. C'est peut-être la plus belle des victoires, et c'est probablement la plus belle des victoires sportives qu'on ait obtenues depuis l'indépendance, et cela justement parce que ça a rapport avec un mouvement d'émancipation, un mouvement de libération qui est en cours et auquel nous allons arriver pacifiquement, bien évidemment, que ça tarde ou que ça ne tarde pas, nous allons finir par y arriver.
Et alors, vous me disiez victoire du peuple, est-ce que les joueurs sont un peu des symboles? Est-ce qu'il y a une prise un peu de position des joueurs? Vous disiez qu'il y avait eu un accueil un peu froid envers les autorités, est-ce qu'il y a quelque chose comme ça?
On avait très peur, j'en avais de grosses craintes quant à la tentative de récupération du pouvoir justement là-bas au Caire. On a vu comment ils ont été ils ont effectivement serré la main au chef, enfin à monsieur Ben Salah, mais on a vu avec quelle froideur ils l'ont fait, et dans certaines de leurs déclarations, je cite monsieur Gedioura, le joueur de football, je cite monsieur Mahrez, le joueur de football, ainsi que monsieur Belmadi, l'entraîneur, ont offert dans leurs déclarations et ont fait référence à la population qui manifestait, l'ont-ils dit clairement, pacifiquement depuis des mois, et donc qui méritaient cette victoire et qu'elle leur était offerte. Donc c'est on ne peut plus clair, même les joueurs, et nous les saluons sur ce point, ont su faire la part des choses, et en disant que ce n'est pas juste une victoire politique, pas juste une victoire footballistique, mais c'est une victoire également citoyenne et politique. Et par là même, j'en profite, puisque c'est une radio également française sur laquelle nous passons en ce moment, c'est aussi rendre aux binationaux ce qui doit appartenir et qui devra appartenir aux binationaux, qui depuis la modification encore une fois de la constitution algérienne en 2016 interdit à tout ce qui est celui qui est porteur ou celle qui est porteuse d'une autre nationalité, et particulièrement la française, puisse prétendre à des responsabilités politiques ou autres dans la haute hiérarchie de l'État algérien. Donc cela montre et cela appuie le fait que les binationaux sont des Algériens comme les autres, comme les Algériens avec une seule nationalité.
Hakim Haddad, fondateur du RAJ et membre du collectif de soutien et de vigilance au mouvement du 22 février en Algérie, il répondait aux questions de Thomas Larabi. Il est 18h13 et vous écoutez le journal de France Culture qui jusqu'à demain soir fait escale à Avignon. Ce soir, Arnaud Laporte, vous prêtez un bel avenir à une jeune pousse.
Ce sont en effet les grands débuts d'un tout jeune metteur en scène, Tommy Milio, qui a choisi de monter un texte de Naomi Wallace, auteure américaine née en 1960, dont les pièces sont montées aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Proche-Orient, et depuis quelques années en France, où les éditions théâtrales ont publié 6 de ses pièces. La Brèche est donc la 7e. L'action se situe à deux époques, 1977 et 1991. Si 14 ans ont passé, rien ne semble avoir changé dans cette petite ville du Kentucky. Frayne et Hawk, les adolescents d'hier, sont devenus adultes et chacun joue son rôle dans la communauté. Mais après la mort d'Acton, avec qui ils constituaient un trio inséparable dans leur jeunesse, la sœur de celui-ci, Jude, revient au pays. Jude, c'était la figure fascinante de la rebelle, et elle les fascine toujours autant. Mais elle porte en elle une brèche, ouverte le soir de ses 17 ans. Un lourd secret unit ces trois personnages, mais il est encore plus terrible que les deux hommes ne l'imaginaient. Jude en a la clé. C'est donc cette pièce qu'a choisi Tommy Milliot, découvert en 2016 avec sa mise en scène de Lotissement de Frédéric Vossier, pour laquelle il avait remporté le prix Impatience. Ce n'est que la troisième mise en scène de cet artiste et il faut louer la direction du Festival d'Avignon de miser sur un talent aussi jeune, tout en mesurant aussi le risque pris par le metteur en scène, le festival étant une caisse de résonance qui peut lancer une carrière comme la stopper net. Le spectacle est fort, les interprètes très bien dirigés et crée un malaise durable. On souhaite une belle carrière à Tommy Milliot. À demain pour la dernière chronique de cet Avignon 2019.
À demain, Arnaud Laporte. Quelques grisailles matinales, justement, demain matin du sud-ouest au nord-est. Quelques averses orageuses sur les Alpes à partir de la mi-journée, comme sur l'est des Pyrénées, du Languedoc à la Provence, temps ensoleillé. Cette édition a été préparée avec Benjamin Ducy, à la technique d'Alia.